Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Le Bunga Bunga était un canular, c'est ainsi que titre aujourd'hui Il Giornale, un journal italien dont le propriétaire n'est autre que Silvio Berlusconi, car hier, le Cavaliere a été définitivement acquitté par la Cour de cassation dans l'affaire dite du Ruby Gate. L'affaire du Ruby Gate, c'est ni plus ni moins qu'une affaire de prostitution de mineurs lors des fameuses soirées Bunga Bunga organisées par le pimpant Berlusconi. À l'époque des faits donc, Ruby, alias Karima El Marou, une jeune danseuse marocaine, avait 17 ans. Un peu jeune pour une partie de jambes en l'air avec beaucoup beaucoup de jambes en tout. Mais les avocats du Cavaliere lui ont trouvé une bonne excuse. D'accord, il y a eu prostitution, mais personne ne savait que Ruby était si jeune. Absolution donc. Pour le chef de Forza Italia, c'est une bonne nouvelle qui arrive 2 jours après la fin de sa peine pour fraude fiscale, une peine qui consistait à passer une matinée par semaine dans une maison de retraite. Libre donc le Berlusconi ? Pas vraiment, il devra bientôt répondre de corruption de sénateurs, financement illicite de partis et achat de faux témoignages dans le cadre du Ruby Gate. Forza Italia qui disait.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vers 19h30, nous recevrons l'association étudiante Paradox qui viendra nous parler de son événement Oxymore qui aura lieu samedi après-midi rue Saint-Aubin à Angers. Ce sera juste après la chronique Lance-Torpille de Yann qui n'est toujours pas content. Mais d'abord, comment sensibiliser au handicap ? L'association Handymen a choisi la voie cinématographique avec une trilogie intitulée Indifférence. On en parle tout de suite.
Tu vois tous les matins là ?
Bah, au travail.
Ah, tu travailles ? C'est pas trop. Bah, je veux dire, c'est pas trop fatigant ?
Non, j'aime bien mon travail. Pourquoi il me témoigne ?
Avec David, on est trop ignorant, on fait n'importe quoi, on est trop bête. Faut pas écouter ce qu'on te dit. Hein.
Extrait de Chamallow, premier volet de la trilogie Indifférence, un court-métrage tourné à Angers il y a 2 ans avec Bruno et Veillot. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Vous faites partie de ce casting de Chamallow. Ouais. Avec vous en studio, Didier Busseau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes metteur en scène et à vos côtés, Tariq Bensalah, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur de Handymen et cinéaste, puisque c'est vous qui avez réalisé Chamallow, puis les autres films dont on va parler tout à l'heure. On va d'abord parler d'Handymen et de ce projet d'association. Handymen, c'est une asso donc, que vous avez créée il y a 4 ans avec pour objectif de sensibiliser au handicap en réalisant des films. Comment est né ce projet d'association ? Je crois que vous-même, vous êtes moniteur d'atelier ou éducateur spécialisé, enfin vous
c'est
travaillez
ça.
Dans...
Enfin, plus maintenant parce que j'ai quitté mon travail pour faire une autre formation en tant que moniteur éducateur, toujours lié dans le handicap, mais à côté on a créé une association qui s'appelle Handymen en 2011 qui a pour but de valoriser le handicap sous la forme de vidéos. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs actions et on a créé cette action qui s'appelle Indifférence. C'est une trilogie, donc le premier qui est un court métrage Chamallow, le deuxième Entre les mots qui est un moyen métrage et le troisième qui va être un long métrage.
D'où est venue l'idée de se servir du cinéma, de la vidéo pour sensibiliser au handicap?
Déjà d'une part je suis cinéphile. Il faut savoir que l'outil vidéo est un outil qui attire de plus en plus de monde. On est dans une société où le numérique a pris les devants et qu'on est tous sur nos smartphones, sur nos tablettes et qu'on est dans les réseaux sociaux, on partage un maximum. Et je sais, sur Internet, il y a beaucoup de conneries qui passent. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas ne balancer des choses qui puissent sensibiliser les gens. Donc j'ai pensé à faire des films sur le handicap. Faire un film sans parler du handicap, de mettre en avant les personnes en situation de handicap. C'est pour ça que j'ai Didier avec moi, qui est le metteur en scène. Et c'est lui qui gère un peu tout cette, Bah, je te laisse continuer, Didier, du coup.
Oui, Didier, c'est quoi votre rôle exactement, Didier Busseau, vous qui êtes metteur en scène ?
Alors, je suis metteur en scène, on va dire, ouais, c'est peut-être un peu un grand mot, mais l'idée, c'est d'accompagner les personnes, alors à la fois les personnes en situation de handicap et les personnes valides, à travers donc un projet artistique, puisqu'il s'agit bien d'une démarche artistique. On est bien sur un travail de composition de personnages, avec une histoire construite. Alors, peut-être que Tariq en parlera un petit peu plus tout à l'heure, comment nos histoires naissent, en quelque sorte. Et mon travail, bah, c'est de mettre un peu tout ce petit monde, ces bénévoles, puisqu'on travaille essentiellement avec des bénévoles sur les gros projets, puisque là, on parle de la trilogie Indifférence. Et du coup, bah, mon travail, ça va être de mettre les gens en action, de mettre les gens en mouvement. Alors bien sûr, moi, je suis plus issu du théâtre, puisque je m'intéressais à l'époque au théâtre handicap, et toujours d'ailleurs, mais il n'y a pas qu'à l'époque, ce qui fait que cette rencontre elle a eu lieu avec Tariq, hein, donc qui a créé l'association d'Imen il y a 4 ans. Donc du coup, nos chemins se sont croisés, moi sur le versant, je dirais, artistique, et lui plus sur l'aspect technique, tout ce qui est aspect cinématographique. Du coup, eh bien, de là est né le premier projet, comme disait Tariq tout à l'heure, donc début 2013, Chamallow. Et du coup, bah, mon travail, ça a été de mettre, bah, en l'occurrence pour ce premier volet, Bruno. Donc Bruno, c'était de le faire travailler avec les comédiens bénévoles. Hein. Alors, en l'occurrence, une majorité de jeunes dans ce premier volet. Et donc de travailler en répétition, de faire du basique, hein, en termes de conduite d'acteur, et puis après de scénariser tout ça, puisqu'il faut savoir que l'appréhension devant une caméra n'est pas la même que quand on travaille sur un plateau de théâtre, hein, en l'occurrence. Donc voilà, tout ce travail. Mais il faut savoir aussi que pour nous, c'était un peu nouveau, de fait, puisqu'on découvrait aussi cet univers-là, donc... Bon, la suite, on va en parler tout à l'heure, mais on a été un peu victime, j'irais, du succès de Chamallow pour enclencher, j'irais, une vitesse supérieure en termes de travail, de nombre de bénévoles et de projets.
Alors parlons justement de Chamallow et de cette histoire. Bruno, vous qui jouez dans Chamallow, je crois que c'est votre histoire en fait qui a inspiré le scénario. Comment ça s'est passé, Tariq Bensalah, Bruno et Veillot ? Comment vous pouvez expliquer un petit peu votre rencontre et puis la naissance du film ?
Donc comment ça s'est passé, c'est simple, on a fait un casting, parce qu'on cherchait une personne au départ qui puisse correspondre au rôle de Chamallow. Au début, on cherchait une personne qui n'était pas forcément déficience mentale, parce que Bruno est atteint d'une déficience mentale. Et donc à l'époque, je travaillais en ESAT, donc on a fait un casting à droite.
ESAT, peut-être pour les auditeurs, préciser, ah oui. Développer le...
Établissement, non, c'est CAT, enseignement CAT, donc établissement spécialisé...
D'aide au travail.
D'aide au travail, voilà.
Merci.
Donc c'est en gros, c'est l'équivalent, c'est le travail, c'est un peu... Au niveau du handicap, c'est des personnes qui sont en situation de handicap qui peuvent vivre chez eux en appartement et qui ont un travail.
D'accord. Voilà,
qui vont travailler.
Qui vont travailler, c'est ça. Et donc j'ai lancé un casting et puis un jour, j'ai vu... Pendant qu'on faisait un documentaire sur le sport adapté, j'ai rencontré Bruno, à l'aise à la face caméra, un peu clown comme là. Et puis j'ai discuté avec lui, je lui ai parlé du projet, pour lui dire quel était l'objectif du film, qui avait peut-être, entre-temps, si on réalisait le film, qu'il y avait des gens aussi qui allaient continuer à se moquer, parce qu'on sait qu'en faisant le film, on n'avait pas changé les mentalités, mais qu'on pouvait. Et puis il a dit tout de suite oui. Oui, donc il a accepté tout de suite, il était content, et après la suite, bah...
Qu'est-ce qui vous a plu, Bruno, dans l'idée de participer à ce film ?
Moi, Tariq est venu voir au Tati et parler un peu, moi, j'ai dit ok, autant de problèmes. Et puis, il était bien parlé. Après, deuxième parlé, pour présenter un film. Et puis, moi, il répétait avec
un CD
pour répéter plusieurs fois.
Ouais, parce qu'il a une bonne mémoire. Il a une très bonne mémoire, il a un GPS carrément.
Ouais.
Bon, Bruno, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, donc pour faciliter la chose, donc il y avait Didier. Mais ouais. Nous, pour qu'il ait aussi les dialogues, les répliques dans sa tête, bah, on lui a fait faire un CD sur mesure.
Pour apprendre le texte.
Et il a appris, donc ouais. Ça s'est super bien passé. Et donc voilà. Donc
Chamallow, c'est l'histoire de Chamallow donc,
ouais.
Que vous jouez et qui se fait un peu chahuter dans le bus, à la sortie du bus. C'est des situations que vous avez vécues.
Un peu, pas beaucoup, un peu. Et bon, il était marrant pour répéter, il était bien.
Qu'est-ce qui est... Enfin, avec Chamallow, vous êtes allé à Cannes.
Festival,
pour le festival Entre deux marches.
Entre deux marches, qui est organisé par le festival de Cannes et qui se trouve à Cannes au même moment que le festival de Cannes.
Quelle expérience c'était ça, de montrer ce film et par, avec ça, de sensibiliser à la question
Ben en fait, une belle expérience. Il faut savoir qu'en France, on est très, très, très en retard sur la sensibilisation du handicap. Bon, faut dire les choses, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, d'organismes qui font le travail et qui le font très bien. Mais en France, on a un peu mal à parler du handicap, c'est encore un tabou. Et même si on fait des films comme Intouchables, comme un film de Johnny Depp qui s'appelle Gibergrap, où on parle d'une personne autiste. Mais honnêtement, c'était une belle découverte pour moi, mais pour Bruno aussi. Parce qu'on a rencontré des stars, on a marché sur le tapis rouge, on a bien mangé, il s'est endormi au cinéma parce qu'on a quand même maté plusieurs films en chinois sous-titrés. Donc, allez expliquer à Bruno.
Et dormi.
Donc voilà, non, c'était une belle expérience et moi, ça m'a donné beaucoup d'idées sur des actions à venir. Et donc voilà, c'était sympa.
Et puis vous avez également obtenu le prix du public au festival de Valenciennes qui s'appelle Andy Movie. Ça, c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance-là du public en plus.
Bah oui, c'est sûr. Ça valorise notre travail. Ça met en avant un peu ce qu'on fait dans l'association. Il faut savoir que dans l'association, on est 7, tous bénévoles. On se voit presque quasi tous les jours à travailler sur nos actions.
Oui, pas les nuits, quoi.
Mais c'était ça valorise notre travail, sachant que bien sûr on a inscrit notre film Chamallow et Entre les mots à d'autres festivals qui forcément ne connaissent pas le handicap, parce qu'on veut aussi mettre en avant la qualité de nos produits, de nos films, et en mettre en avant aussi ce qu'on veut, ce qu'on, je sais pas comment on dit le mot, mais voilà, ce qu'on met en avant aussi et le but qu'on recherche, c'est-à-dire de changer les mentalités. Donc voilà.
Parlons de ce deuxième volet de la trilogie Entre les mots, qui a été tourné en juillet dernier, je crois, à Saint-Sylvain-d'Anjou.
Oui, au lycée Saint-Aubin.
Entre les mots, c'est la rencontre entre deux lycéennes, dont une est atteinte de trisomie, qui est jouée par Camille Crochet, c'est ça, je me trompe pas.
Exact.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire et puis votre rencontre avec cette nouvelle actrice?
Alors, comment ça s'est passé? On a fait un casting. C'est une fille qui s'appelle Stéphanie, qui habite à Montpellier, qui m'a appelé. Donc elle a suivi un peu l'association Handymen via les réseaux sociaux, enfin notre page Facebook notamment, et elle m'a dit bah écoutez, moi j'ai une histoire et j'aimerais bien vous la raconter. Donc elle me l'a racontée et c'est simple, c'est l'histoire d'une personne, d'une jeune qui est nouvelle dans sa commune et je te laisse continuer parce que j'ai un trou là.
Faut pas tout dire, mais
oui, justement, j'ai pas envie de balancer la fin, quoi.
Bah oui, parce que en fin de compte, donc ce moyen métrage qui dure 24 minutes entre les mots,
20 minutes,
la chute, c'est en fin de compte l'histoire.
Oui.
Bon, il faut savoir que c'est deux lycéennes qui s'opposent, mais en l'occurrence, elles ont un rapport toutes les deux, mais que seules elles le savent. Mais les autres, comme elles sont toutes les deux jeunes, nouvelles arrivées dans ce lycée. Il se trouve que donc Camille, donc, qui joue son propre rôle en quelque sorte, qui raconte aussi sa propre histoire, a été interpellée par cette jeune fille, donc Océane, dans le film, et qui l'interpelle sur le côté, y en a marre de que vous parliez de votre trisomie, de votre handicap. Voilà, donc cette jeune fille, Océane, est interpellée par la direction par rapport à son comportement inadmissible, et de là démarre l'histoire. Mais il faut savoir qu'à la fin, il y a une chute, une chute qui nous amène à comprendre pourquoi la position d'Océane était celle-ci par rapport à cette jeune fille, Camille. Est-ce que j'ai tout dit ou pas?
En fait, c'est ça. C'est l'histoire d'une personne qui se moque d'une personne handicapée dans la classe. Et la plupart des élèves sont justement choqués et d'autres pas, justement.
Ouais.
Donc après, ça va mener un débat et une histoire qui est vraie.
Et ce film va aller à Cannes également.
Encore, au Festival Entre deux Marches à Cannes.
Double.
C'est ça, double.
On va poursuivre la discussion juste après Twin Peaks avec Good Lovin'.
Yeah. déjà.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on reçoit l'association Andymen avec Tariq Bensala, cinéaste, président fondateur de l'association, Didier Busseau, metteur en scène, et Bruno Eveillot, acteur, qui a notamment joué dans Chamallow, dont on vient de parler. Chamallow qui s'inscrit dans cette trilogie Indifférence. Parlons maintenant du troisième volet qui va se tourner en 2015, si je ne me trompe pas, qui va s'appeler Joe.
Joe, c'est ça.
Et c'est un long, cette fois-ci.
Ça va être un long métrage. Donc Joe, c'est quelqu'un qui est autiste. Donc là, c'est une autre pathologie, je dirais pas complexe, mais un challenge pour nous, parce que voilà, c'est du travail, c'est un autre monde. On l'a rencontré plusieurs fois, ça se passe très bien. Maintenant, le scénario est bientôt fini, donc ça sera tourné au mois de novembre. Et ça sera pour aussi clôturer cette trilogie.
Et c'est vrai que Joe, donc c'est vrai que la pathologie, donc l'autisme d'Asperger, c'est vraiment très particulier. Et donc tout notre travail actuellement, de ce qu'on appelle un travail un peu de collectage d'informations, c'est ce qu'on fait avec Joe. Donc là, c'est vraiment propre à notre travail, c'est-à-dire ces films en rapport avec le handicap. C'est que là, on est vraiment dans un travail de proximité, un travail vraiment de... On travaille avec l'association Autisme 49, donc qui nous accompagne aussi dans notre réflexion, dans notre prospection, dans notre information, parce qu'on a aussi besoin, nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues cliniciens, on a effectivement des compétences, comme disait Tariq tout à l'heure, dans le milieu, mais là, on a besoin effectivement aussi de nous nourrir de ce qu'est l'autisme. Et on ne veut pas se planter, on veut pas faire n'importe quoi, faire des films. Donc effectivement, ce que dit Tariq, ça fait bientôt presque un an qu'on rencontre régulièrement Joe. Geoffroy, il s'appelle, mais c'est Joe, c'est le diminutif, hein, c'est une abréviation de son prénom. Du coup, bah voilà, on est dans ce travail-là d'information, de prise d'infos, de le rassurer. On lui a présenté la comédienne qui allait jouer avec lui pour que des liens se fassent, des connexions se fassent. Donc c'est un vrai travail de... Là, on travaille beaucoup plus en préparation que les autres, les deux autres. Ouais.
Alors, on a évoqué tout à l'heure les festivals dans lesquels vous aviez présenté au moins une partie de la trilogie, mais vous la présentez également devant des publics divers pour sensibiliser au handicap. Alors, qui sont ces publics assez rapidement, et puis surtout, comment est-ce qu'ils réagissent?
On fait des établissements, donc les écoles, les collèges,
on a fait la fac,
la cato, les entreprises, les associations. On essaie de toucher un peu tout le monde. Moi, quand je me rappelle quand j'ai créé l'association Andymen, honnêtement, j'ai eu peur au bout d'un moment en me disant je fais un film, mais les gens, ils s'en foutent, les jeunes. Et en fin de compte, c'est le contraire, c'est que les gens sont intéressés. À partir du moment où on ramène un produit professionnel avec une image et un son parfait, donc tout de suite, la machine est enclenchée. Et cette idée de trilogie, c'était pas en projet, parce que je me souviens, on avait fait une intervention à Lorient, parce qu'on bouge aussi partout en France. Il y a un élève qui est venu me voir, il me fait « on attend vraiment la suite ». Donc l'idée de la trilogie est venue comme ça, j'ai dit de toute façon... on ne peut que faire ça pour continuer de faire de la prévention auprès des élèves, des adultes.
D'ailleurs, à tel point où on est dépossédé en quelque sorte du produit, il ne nous appartient plus. Enfin, Chamallow, on a pu... Donc Chamallow est devenu un outil pédagogique sur le site EduxCol, qui est à disposition des enseignants, pour que ça soit un support de travail pédagogique auprès des enfants. C'est plutôt pas mal.
Oui. Ouais.
Quel travail reste à abattre encore sur le regard qu'on porte sur le handicap aujourd'hui? Je vais me tourner vers Bruno. Qu'est-ce qui vous agace le plus, vous, quand, par rapport au regard qu'on porte sur votre handicap?
Avant, il était retardé tout le temps. Et puis, maintenant, eh bien, pour pas regarder tout le temps, puis voilà. Avant, les jeunes, ils lâchaient les bouteilles en plein, avec les sacs à main, tout ça. Ils voulaient pas laisser les plages aux jeunes pour te taper, veut pas mettre à côté. Avec les sacs à main, les sacs à dos, tout ça. Et maintenant, les jeunes, ils mélangent un peu avec nous, et bien.
Il faut savoir que Bruno, quand On a fait la promotion de Chamallow dans les établissements, ils le reconnaissent. Et depuis, ils l'appellent Chamallow dans les transports.
Ouais.
Vous disiez tout à l'heure qu'on était pas mal à la bourre en France sur le regard qu'on porte sur le handicap. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Bah,
il y a évidemment les actions que vous menez.
Il y a les actions, mais je pense qu'il faut parler du handicap sans en parler. Parce que en France, quand on fait on essaye de faire de la prévention, on essaye de faire mal les choses, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer du doigt une catégorie, une communauté ou voilà. Et ce que j'ai vu moi à Cannes, c'est que les gens, quand ils parlent du handicap, dans leurs films, ils n'en parlent pas. Ils ramènent la chose et c'est au public de comprendre l'histoire. Et ça marche très bien. Je parle de Mommy, par exemple, de Dolan, qui sont le petit jeune là, qui a une, je sais plus, une déficience. Non, il n'y a pas une déficience, mais, ouais. Mais en tout cas, voilà. En France, on est en retard parce que on essaie trop de montrer du doigt les organismes, les instituts, et alors qu'on devrait tout simplement banaliser le handicap, tout simplement.
Didier Busseau, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question précise de comment on pourrait faire avancer les
choses ? C'est vrai que je ne sais pas si on peut dire qu'on a du retard. Après, il y a en fonction du contexte culturel ou des endroits. On prend beaucoup d'exemples du Québec, par exemple. On parlait de Mommy tout à l'heure. Je crois que c'est un film qui est d'ailleurs fait là-bas. Il y a Gabi aussi, qui a un très bon film sur le syndrome Williams.
Gabriel.
Ouais, du coup, où là, effectivement, ce que dit Tariq, en quelque sorte, et c'est pour ramener ça à notre association, c'est que nous, on a prétention de monter des projets. Donc là, d'ailleurs, on le voit quand on s'inscrit à des festivals, on nous dit souvent, c'est du social, ou ça a des visées, en gros, clinique, social, ça, c'est pas du culturel. Et puis quand on va dans le culturel, on nous dit, mais vous parlez quand même du handicap, donc c'est pas vraiment du culturel. Donc on est encore un peu le cul entre deux chaises. Alors après, il y a des trucs qui existent. Hein. Par exemple, en Belgique, au Canada, il y a des structures culturelles où on mutualise les compétences artistiques des gens. Alors ça peut être plastique, ça peut art vivant, etc. Où le simple objectif, c'est de créer et d'inventer des choses avec des personnes. Peu importe si on est handicapé ou pas, ou on a une maladie ou pas, peu importe, c'est tout le monde dans le même panier. Et ça, on n'a pas en France, par exemple. Par exemple, on n'a pas, par exemple, sur Angers, des ateliers artistiques ou culturels ouverts à tous. Je ne dis pas que c'est fermé des personnes en situation de handicap, mais par exemple, moi, sur la place d'Angers, je peux vous dire qu'il n'existe pas, par exemple, d'atelier théâtre ouvert aux personnes handicapées, aux personnes valides mélangées. Voilà, ça se fait un peu dans le sport, donc ça commence à arriver. Et puis c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus de structures ouvertes qui accueillent du handicap. C'est-à-dire que maintenant, on a moins gros établissements, on a des petites maisons, on a des concepts de maisons qui commencent à arriver, où on intègre dans la dimension, je dirais, géographique, des structures qui se noient, je dirais, avec le paysage. Donc ça, avant, on avait des gros bâtiments de 300 mètres, il y avait marqué « hôpital » ou « structure » ou « institution ». Par exemple, vous allez en Belgique, vous avez carrément des maisons habitées par des personnes en situation de handicap, où vous passez devant et vous ne savez pas que c'est des personnes handicapées qui habitent là. Vous voyez ? Voilà, ça, on en passe aussi par des choses comme ça, je pense. Nous, l'idée, on le voit sur Angers, on travaille aussi avec une personne qui s'appelle Marie-France Roy, qui est chorégraphe, et qui, elle, monte des spectacles avec des personnes valides et des personnes en majorité trisomiques. Et elle, son seul but, c'est de faire monter des chorégraphies, point, basta. De raconter des histoires, terminé. Voilà. Le mot handicap, je ne sais même pas s'il est illicité. Enfin, voilà. Voilà, nous on est encore, et nous on est un peu sur ce terrain-là avec Andymen et Tariq. On essaye vraiment de rentrer dans ce genre de. Voilà.
De banaliser.
On est une bande de potes, on est 60 des fois sur un tournage, et voilà, on est tous dans le même bateau, on fait un tournage, et puis on boit des coups, et puis derrière on passe à autre chose. Hein, Bruno ?
Eh bien.
Alors pour les curieux, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, les deux premiers volets de cette trilogie, c'est demain soir au cinéma Gaumont Multiplex à partir de 19h, et là on pourra voir Chamallow et Entre les mots.
C'est ça.
Et vous rencontrer ?
Oui, aussi.
Voilà, 19h demain au cinéma Gaumont Multiplex. Merci beaucoup Tariq Ben Salah, Didier Busseau et Bruno Eveillot d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Merci.
C'était San Carole avec Auction 777.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il est 19h30, figurez-vous que c'est l'heure de retrouver la chronique Lance-Torpille de Yann. Salut Yann.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Tout d'abord, oula, je suis fort dans ce micro. Je ne commencerai pas cette chronique en parlant de la mort prématurée des 10 personnes présentes dans le crash d'hélicoptère en Argentine lors du tournage de l'émission Dropped. Alexis Vastine, Camille Muffa, Florence Artaud, trois sportifs français, sans oublier les 5 membres de l'équipe de tournage et les 2 pilotes argentins. Un accident stupide pour une émission pas terrible, tragique, évitable, frappant au hasard. Tant que le téléspectateur continuera de saliver devant des émissions bidonnées pour que TF1 puisse vendre du temps de cerveau disponible et que des ex-célébrités en mal de notoriété répondront toujours à l'appel des sirènes, alors plus de fric sera toujours égal à plus de risques. Mais pas d'inquiétude, on vient de me glisser une dépêche sous les yeux. François Hollande pourrait remplacer ses sportifs pour les futures compétitions. En effet, en voile, François Hollande est un capitaine de pédalo incontesté. Maîtriser et produire du vent sont ses 2 spécialités. Boxe, François est un punching ball humain. Prendre des coups, il sait faire. En donner aussi, même si, comme tout bon politique qui se respecte, c'est souvent en dessous de la ceinture. Enfin, natation, François Hollande se serait décidé à détacher les poids lestés à ses chevilles l'entraînant vers le fond, mais des requins seraient déjà en train de l'entourer.
Je t'ai mis à la chronique sportive, toi, Yann.
Je crois que je vais laisser ça à l'équipe de Ta Gueule Coubertin. Moi, ce que j'aime, c'est taper sur les bonimenteurs politiques. D'ailleurs, ce soir, je ne parlerai pas d'Isabelle Guinot. Première adjointe au maire UMP de Juvisy, dans l'Essonne, Isabelle Guinot a posté dimanche sur son compte Facebook ce message. « C'est pitoyable d'avoir une telle ministre de la Justice. Elle vient de Cayenne, là où il y avait le bagne. Qu'elle reparte là-bas, vu qu'elle a toujours détesté la France. » Malheureusement, plus rien ne m'étonne chez les élus de la droite, comme ceux de la droite et ceux de la droite de la droite de la droite. Puisque la droite classique s'apprête à partager la rhétorique du FN, il faut bien qu'elle s'entraîne aux éléments de langage de ce dernier. On entend souvent se détacher de leurs responsabilités certains militants de droite affirmer que le FN est le fruit de la gauche et que c'est lorsque la gauche est au pouvoir que grimpe le FN. Mais peut-on me rappeler quel score a fait le Front National au présidentiel de 2012 après un quinquennat de Sarkozy lui-même précédé d'un quinquennat de Chirac ? Mais peut-être que Sarko était de gauche, sans que nous le sachions, qui sait.
C'était la minute des magots.
Yeah, j'en ai encore un petit peu sous le coude, attends. Ce soir, je ne parlerai pas de la fraude présumée du budget européen par le Front National. Bon, en gros, dans ce Bloody Bulga, voilà ce qu'il faut comprendre. Des cadres du parti, rémunérés comme des assistants parlementaires, ne seraient jamais présents à Strasbourg ou Bruxelles. Traduction de comptoir, ils seraient payés à ne rien foutre. Évidemment, on ne parle pas de petits avantages comme des tickets resto, mais plutôt de salaires de 10 000 euros bruts, soit un préjudice qui dépasserait un montant de 7 500 000 euros. Libre à ces gens du Front National de dénigrer les institutions européennes, mais qu'ils ne s'y fassent pas élire pour les parasiter et en ponctionner le budget. Au Front National, c'est main propre, tête haute, mais toujours les pieds traînant dans la merde. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de Cholet, ou plutôt de son sympathique maire humaniste Gilles Bourdoulex, celui qui avait estimé en 2013 à propos des gens du voyage qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez, avait renouvelé donc son essai grâce à une politique vomitive. Gilles Bourdoulex a décidé de fermer l'aire d'accueil des gens du voyage après l'incendie d'un bagolo des agents de la société gestionnaire du site sans leur trouver un autre terrain en attendant. Autrement dit, il les met dehors du jour au lendemain. C'est intéressant de voir l'acharnement des politiques de droite contre les minorités quand on ne les voit jamais se révolter contre ceux qui, eux, détournent en masse la moindre création de richesse pour l'exporter dans les paradis fiscaux. Certains voient parfois une certaine corrélation entre accueil des gens du voyage et problèmes municipaux, mais est-ce une solution de déplacer des problèmes ? Suis-je utopiste en pensant que l'on peut agir autrement pour créer une vraie dynamique du vivre ensemble. Bref, un maire qui refuse d'appliquer la loi et qui se complaît dans l'ostracisme pour justifier son refus, il pourrait aussi s'attaquer à tout le monde, receveurs universels qui peuvent bénéficier sans rien donner des dons du sang de tout le monde. Mais cela se voit un petit peu moins et un élu, c'est un peu moins vendable pour un élu. La vraie question est comment se fait-il qu'en 2015, un élu soit encore en poste alors qu'il a été condamné pour apologie du crime contre l'humanité ? On me dit dans l'oreillette que mon temps est dépassé. Je vous laisse donc, malheureusement, dans le marasme politique actuel. Et d'ici là, à la semaine prochaine.
Merci Yann, à la semaine prochaine.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Décidément, c'est la période à laquelle les étudiants en L3 Infocom créent l'événement à Angers. Après avoir reçu Macadam la semaine dernière et Cultuar hier, voici l'assaut Paradoxe. Bonsoir Pierre et Guillaume.
Bonsoir Tiffaine.
Alors pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, on va resituer votre cadre universitaire et la création donc de l'assaut Paradoxe. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui se réveillent actuellement ce que vous faites? Alors donc c'est L3 Infocom et donc vous êtes dans un bloc événementiel, c'est ça?
Oui, tout à fait. En gros, en troisième année de licence, nous avons la possibilité de choisir une option. Et donc nous avons choisi l'option événementielle. Et dans cette option, nous sommes amenés durant l'année à créer un événement. Et nous, pour notre association Paradoxe, nous avons notre événement samedi qui arrive.
Alors,
qui s'appelle Oxymore.
Qui s'appelle Oxymore. Alors, vous vous attaquez à la mode. C'est un défilé qui va se passer rue Saint-Aubin samedi après-midi.
Tout à fait.
Avant de parler du concept, pourquoi avoir choisi ce thème en plus? Alors, je sais que c'est ultra cliché et que tout le monde va me tomber sur le dos, mais j'ai deux mecs au micro qui vont parler de mode, c'est pas un truc qui vous rebutait?
Ben,
c'est du sexisme inversé.
Ouais, je sais, c'est complètement naze. Ben, et je suis désolée d'avoir dit ça.
Avant de partir justement sur la thématique de notre événement qui était la mode, on voulait d'abord prendre des valeurs. Voilà, on a construit notre association sur des valeurs qui étaient vraiment la tolérance, la diversité. Et on s'est retrouvés autour justement d'un thème. Un thème qui nous touchait tous un petit peu, qui était donc la mode. Et on s'est dit... Ah ben, où est-ce qu'il y a vraiment des codes qui sont instaurés? Où est-ce qu'il y a vraiment des normes que l'on pourrait casser, où on pourrait instaurer plus de tolérance, plus de diversité? Et c'est là où on a eu cette idée justement de faire un défilé de mode. Et on voudrait aussi casser les préjugés, donc ce n'est pas étonnant au final de voir des hommes organiser un événement comme ça là finalement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous agace particulièrement dans le fait que tous les mannequins soient calibrés?
Alors, en gros, de base, la mode est faite pour tous. C'est tout le monde fait la mode. La mode, la vraie mode, elle se fait dans la rue. Ce sont les gens qui marchent dans la rue, ce sont telle personne qui s'habille de telle façon qui fait la mode. C'est pas les magasins ou autres. Mais ils participent, bien sûr, à créer cet élan de mode. Et justement, nous, notre but, c'est de casser ces codes afin de prouver que la mode est faite pour tous, simplement.
C'est parti, en fait, comme a dit Guillaume, voilà, d'un constat, en fait, on a vraiment regardé à 360 degrés sur la scène, dans le milieu culturel, quelque chose vraiment qui était extrêmement ancré dans des règles, dans des bases extrêmement définies. Et on s'est rendu compte que voilà, dans la mode, on a nos collègues en fait, qui s'y connaissent bien là-dedans, nous ont montré des défilés de mode. C'était à chaque fois la même chose, à chaque fois c'était du taille 36 extrêmement imposé, on a regardé beaucoup de défilés de mode.
Et encore 36, voilà. Elles sont grosses.
Et encore 36, ouais, voilà, 36, c'est assez limite. On est parti voilà, sur des constats, et c'est ce qui a amené à notre événement.
Alors juste, ces derniers temps, on voit quand même se multiplier des mannequins hors du commun. Alors, j'ai été me renseigner un peu sur les internets et j'ai trouvé Gillian Mercado, qui souffre de dystrophie musculaire, Winnie Harlow, atteinte de vitiligo, c'est cette maladie qui dépigmente la peau. Et cette mode, elle a été lancée, je crois, par John Galliano en 2006 avec son défilé Freak Show, dans lequel on voit tout type de physique absolument différent. Vraiment, il y a tout. Ça évolue quand même, non? Ou ça, c'est des petits trucs cosmétiques qui ne feront pas encore assez bouger les choses?
Ah oui, tout à fait. La mode évolue. Maintenant, c'est vrai que l'on voit, par exemple, des tailles mannequins beaucoup plus étendues. On n'est plus au 36, nous avons toutes sortes de modèles. Mais nous voulons appuyer encore plus ce phénomène et le démontrer par notre événement, en fait, simplement.
Donc vous êtes dit que vous vouliez défendre ces valeurs universelles que vous avez citées tout à l'heure, tolérance, diversité, mixité. Concrètement, comment est-ce que ça va se retranscrire dans un défilé?
Eh bien là-dessus, ça va être un petit peu la surprise. On voudrait garder la mise en scène, la scénographie qui a été pensée justement pour faire passer le message aux passants de la rue de Saint-Aubin. Donc on peut malheureusement pas trop vous en dire là-dessus.
Alors ça c'est dommage, on les invite pour parler dans les mêmes.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Guillaume? Dis-moi.
Ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est un défilé hors du commun. Il y a vraiment toute une scénographie mise en place dans cette rue.
Dans la rue Saint-Aubin.
Voilà. Dans la rue Saint-Aubin. Ensuite, nous avons certains partenaires qui peuvent, comment dire, vous aiguiller et vous aider pour comprendre que c'est vraiment hors du commun, puisque nos partenaires sont des magasins. Donc, vous pouvez comprendre par ce fait que la mode, elle se fait dans la rue, mais peut-être aussi ailleurs. Donc voilà, vous verrez bien.
Donc c'est
on se contente de ça, quoi.
C'est les mannequins qui vont défiler, qui seront habillés avec leurs propres vêtements. C'est
Alors, il y aura deux étapes en fait à notre événement. En fait, on voulait absolument montrer que la mode, c'est pas justement comme a dit Guillaume tout à l'heure, elle ne se passe pas uniquement dans les magasins, sur les podiums, etc. Au final, c'est la mode, c'est celle qu'on porte tous les jours. C'est comment on s'habille donc, le matin, c'est comment on se regarde.
Mode.
Exactement, d'accord. C'est sa propre mode et c'est ça surtout qu'on voudrait montrer. C'est comment on s'habille le matin, comment est-ce qu'on se maquille, etc. Donc, on voulait aussi que le spectateur soit également acteur. C'est pour ça aussi qu'on a choisi un lieu public. Et donc les mannequins, enfin on va appeler ça plutôt des modèles, on les met vraiment dans une situation particulière, je ne vais pas vous en dire plus, désolé, je suis vraiment désolé. On les met vraiment dans une situation particulière pour faire réfléchir, amener à la réflexion justement des passants en fait. Et tout, absolument tout notre événement est basé sur une mise en scène, des messages par-ci par-là, voilà. Donc venez, il n'y a que comme ça que vous pourrez... percevoir la chose et comprendre voilà, nos véritables valeurs qui sont la diversité, la mixité, la tolérance, voilà, l'ouverture sur habillez-vous comme vous voulez quoi, au final.
Alors, on a bien compris qu'on n'allait pas en savoir plus. Moi, j'ai quand même posé une question. Ça a été dur de convaincre les commerçants, les magasins de cette rue ultra passante avec beaucoup de grandes chaînes.
Alors, niveau démarche, déjà, nous devions avoir les autorisations au niveau de la mairie, puisque c'est un endroit public. Mmh. Donc ça demandait beaucoup de temps. Puis au niveau des magasins, bien sûr, ce sont des grandes marques, donc il y a des sièges sociaux. Et donc, il faut ramener toujours tous les dossiers partenariats, etc., aux sièges sociaux.
D'ailleurs, on aurait même pu penser que c'était paradoxal, parce que nos partenaires, qui sont quand même Mime, Réserve Naturelle, Antonelle, Jules, Pantachop, pour en citer quelques-uns, ou encore Célios, comme a dit, ce sont des grandes chaînes, on pourrait penser qu'ils sont contre nos idées, qu'ils sont, ouais, vous allez faire des trucs dans nos vitrines, enfin, vous allez faire des trucs dans la rue. Et au contraire, ils ont été tout de suite enjoués de voir notre message, de voir ce qu'on voulait y faire passer, le mode de pensée vraiment de la mixité, etc. Après, ça a été extrêmement pas compliqué, oui. Par contre, il faut quand même l'avouer, même si, parce que ça a c'était quand même des grosses chaînes, que ça puisse parler, que ça puisse aller dans le sens de ces chaînes-là, notre événement, c'était pas facile, ouais, c'est sûr.
Et vous diriez que c'est la chose la plus compliquée que vous ayez eu à faire, de convaincre
Totalement. Ça a été extrêmement compliqué tout du long, et ça s'est fini il y a vraiment très peu de temps. Voilà, c'était vraiment des négociations, cet événement a été très spécial, parce que ça a été vraiment la négociation sur tout le long. Mais au final, on se retrouve quand même avec un événement bien délimité, avec vraiment des partenaires qui nous suivent et qui surtout soutiennent les valeurs de l'événement.
Qu'est-ce que vous aurez appris pendant tout ce temps de formation événementielle, quoi, toute la construction du projet, qu'est-ce que vous retiendrez pour l'avenir professionnel ou...
Alors déjà, le fait de créer une association, c'est... un grand travail qui se fait en amont, c'est-à-dire que durant l'événement, tout le monde verra que, par exemple, l'événement se passera bien, il n'y a pas de souci, mais derrière, il y a vraiment un travail sur soi-même, d'une part, parce que dans notre groupe, on est très différents. C'est-à-dire que nous avons tous une vision de la mode différente, nous pensons vraiment, nous sommes complètement opposés. Et vraiment, réussir à se retrouver auprès d'une valeur commune a été très difficile. Puis au final, ça se passe très bien.
Ça a été une grande aventure humaine, je pense, voilà. Cet événement. Avant d'être un événement, ouais, pour nous en tout cas, ça a été une grande aventure humaine parce que des événements, on en fait quelques-uns, notamment dans notre groupe, on a quelques initiés, notamment Guillaume et moi. Mais à part ça, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, notamment en touchant un événement qui représentait d'abord des valeurs avant de représenter, je ne sais pas, un simple concert, on voulait faire quelque chose qui surprenne. Et ça, finalement, à travers des valeurs, c'était vraiment pas si facile que ça. On s'est attaqué à quelque chose de vraiment coriace, assez dur en plus, directement contacter des gros sièges sociaux, négocier avec eux. Et au final, on a réussi à faire quelque chose à taille humaine, on a réussi à s'entendre malgré nos différends, malgré, je veux dire, nos caractères opposés. Et ouais, c'est avant tout une grande, grande aventure humaine avec beaucoup, beaucoup de relations. Et ça c'était vraiment super bien.
Et si l'asso Paradox a effectivement été créé dans le cadre de vos études, est-ce que vous imaginez poursuivre l'aventure après si Oxymore de ce samedi fonctionne?
Alors honnêtement, nous ne nous sommes pas posé la question. Ensuite, personnellement, moi, j'y ai réfléchi. Je pense que pourquoi pas, puisque si l'événement marche, pourquoi ne pas en continuer et en créer d'autres. L'association a une page Facebook, est déjà créée, donc pourquoi pas continuer. Ensuite, pour les autres, je ne sais pas, mais on va en parler de toute manière. C'est une question.
Dans tous les cas, voilà, ça sera toujours autour. Paradoxe avant tout, c'est la diversité, c'est la tolérance, et c'est là-dessus qu'on s'est créé, et c'est là-dessus qu'on avancera. Donc ça sera pas forcément un défilé de mode, ça sera sur autre chose. Mais voilà, si jamais on reprend le flambeau, ça sera ça.
En tout cas, pour les curieux qui veulent lever le voile sur ce mystère de samedi avec l'événement Oxymore, ça se passe entre 15h30 et 17h, rue Saint-Aubin. C'est tout le long de la rue, c'est...
Non, ça ne sera pas tout le long de
la
rue.
C'est le haut de la rue.
Tout à fait, voilà, ça sera le haut de la rue. On voulait faire un espace, voilà, un événement quand même à taille humaine. Parce que mine de rien, c'était quand même beaucoup de boulot dans un premier temps. Et on voulait pas... On voulait pas non plus faire quelque chose de immense. Voilà, c'est tout.
C'est noté. Merci beaucoup, Pierre et Guillaume, d'avoir
Merci
été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
When a plain becomes a valley and a mountain a sea, and it really was them who were looking through me. I pray I'm a lion in the light of this day, until the wind has carried all my questions away. Leave the answers to the beggars and the liars. I've asked you for a kiss and you set me on fire with these
Vous écoutiez Sabina avec Viva l'amour.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, c'est la traditionnelle scène ouverte au Terroc Coco à 21h30 et on termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, Sine qua non se penchait sur l'omniprésence des super-héros sur nos grands écrans.
Vous écoutez Sine qua non sur Radio Campus Angers en direct de mon petit donjon sadomaso où l'ambiance, j'avoue, est très tendue. Vous venez d'entendre un extrait de la bande originale de Dr. Horrible Sing Along Blog, une savoureuse mini-série musicale concoctée en 2008 par la famille Whedon, dont le membre le plus connu, Joss Whedon, est aussi le créateur de Buffy contre les vampires et le réalisateur de Avengers. Et cette BO, eh ben, ils l'ont fait eux-mêmes. même, Dr. Horrible Singalong Blog, c'est l'histoire d'un super méchant un peu nerd qui arrive pas à pécho sa rousse et qui arrête pas de se faire humilier par un super gentil très musclé doté d'un très gros sexe. Bon, j'avoue, le très gros sexe, c'est moi qui imagine. Tiens, à propos de très gros sexe, Ryan-san, c'est votre tour de chroniquer.
L'autre jour, quand on était tous en prison, j'ai été pris par une petite partie de poker illégale. Et j'ai rencontré un vieil homme qui n'arrêtait pas de partir dans des délires chelous et incompréhensibles.
C'est amusant, ça, c'est exactement comme ça que je vous décris aux gens qui vous connaissent pas.
Vous pouvez réécouter la totalité de Sine qua non sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez une rediff de Pas de panique, l'émission geek de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. On parlera logement étudiant, resto U et aide sociale avec le Crous. Merci à Yann et à Thomas pour la co-préparation de l'émission. Merci à Maëlle pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.